Embrassons les mômes et les mômes, l'amour commence.
Salut Charline.
Bonjour Amanda Lear.
J'essaye d'aller dans les graves là, mais faut que je travaille encore un peu.
On reçoit pas Amanda Lear, on reçoit Dany aujourd'hui.
Oui, une autre star de Saint-Germain-des-Prés, une crooneuse punk.
C'est comme un mélange entre Elvis Presley et Nina Hagen.
Mais non, pas ce Saint-Germain-là, c'est Truffaut, c'est Gainsbourg, ça parle quand même ça.
Gainsbourg, il lui a écrit Boomerang quand même.
Oui, mais oui, il a écrit pour elle, pas pour toi.
Ça c'est vrai.
Je travaille pour avoir une voix grave. Écoute Dany en 69.
Je suis née comme tout un chacun, ça tombait mal, mais ça fait rien.
Écoute, en 2016, quand elle reprend sa chanson.
Je suis née comme tout un chacun, ça tombait mal.
Cette voix quand même.
Falloir fumer des gauloises.
Et des sans filtre.
Charline,
pour avoir une voix comme ça, il faut avoir vécu un peu.
J'habite dans le 13e, c'est rive gauche quand même.
Dany, elle a été mannequin, chanteuse, actrice, propriétaire de boîte de nuit. Et comment elle s'appelle la boîte de nuit?
Le boomerang.
Mais non, l'aventure.
Moi aussi, j'étais un petit peu cassée par la vie.
Mais tu picoles au moins.
Hier, je me suis mis une mine au cheveux citron quand même.
Est-ce que tu prends de la drogue?
Doliprane quand même.
On n'y est pas.
Bonjour la France Inter, vous êtes bien fleur de la blague.
Et ce soir, nous avons une belle équipe.
La Castafiore et Patrick Bruel, on est bien là.
On n'y est pas. On n'y est pas. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Radio, ce lieu où les actualités parlées côtoient la galéjade. Tout ça dans un esprit de coworking, bien sûr. Les défilés de la Fashion Week atteignent une telle démesure que les mannequins marchent sur l'eau. À Paris, le podium, c'est la Seine, S-E-I-N-E. Le deuxième secteur le plus polluant de la planète en met plein la vue au pays du champion de la Terre.
Seulement s'il y a un truc qui s'apprend pas... C'est la classe.
Les étudiants issus des petites villes et des milieux ruraux se réunissent en association pour pouvoir affronter la vie parisienne et l'intégration à Sciences Po. Ils luttent contre les complexes ruraux en thérapie de groupe.
Évacue tes complexes. Ce que tu accumules, il faut que tu le décumules.
Il y aura bientôt 10 ans qu'Alain Bachung a disparu, mais apparaissent de nouvelles chansons sur un album posthume. Et la question se pose déjà pour Charles Aznavour.
J'en ai marre d'expliquer à tout le monde que tu es décédé.
Lui, il est capable de laisser des brèves posthumes, outre celles qui signeront son épitaphe, bien sûr. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, aujourd'hui, figurez-vous.
J'ai l'impression qu'il y a une belle équipe.
Il y a une belle équipe autour de la table. À 17h20, celui qui, comme il n'écoute que des musiques pointues, a découvert hier un jeune chanteur arménien qui avait un peu de talent. Bonjour monsieur Djoubakar.
Bonjour monsieur Vizorek.
De quoi on va parler ?
De chanteur arménien ?
C'est vrai ?
Non, c'est pas vrai. De blues.
De blues. À 17h30, l'amant caché d'Edith l'esthéticienne, et ça se voit. À sa parfaite épilation du maillot, c'est Guillaume Meurice.
On se connaît beaucoup trop bien, Alex. Je vais vous parler pollution aujourd'hui. Je suis allé à un défilé de vieilles bagnoles où on pouvait contempler des modèles comment ?
Par les choses un peu historiques et patrimoniques.
Voilà, des modèles patrimoniques.
Très bien.
La patrimonie, c'est très important.
Et à 17h40, celle qui aime autant Chateaubriand que Château Pétrus, c'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonsoir.
C'est déjà plus de vécu, là, déjà. De quoi on va parler ?
On va parler d'une balade sauvage en Afrique du Sud.
Très bien. Et voici celle dont le groove va ambiancer l'open space. Je vous laisse annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Je m'appelle Dany, j'en suis chanteuse de temps en temps. J'adore être avec vous.
Moi aussi,
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Dany.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous pouvez reparler avec votre vraie voix ?
Non, mais c'est la mienne normale. Évidemment, quand on a 20 ans ou 17 ans, il n'y a pas encore les cigarettes et puis tout le dossier de la vie qui arrive. Vous allez voir, à mon âge, vous parlerez comme moi.
S'il y arrive,
Cette vie résumée dans un livre qui est paru il y a 2 ans, qui s'appelle « La nuit ne dure pas », paru chez Flammarion, Dany. Et vous en faites des lectures musicales avec Emmanuel Seigné. Ce sont des lectures. Alors, vous serez par exemple jeudi à Lyon, vendredi à Grasse. Vous serez le 16 octobre à Paris. Il y a une, on peut dire une tournée de lecture, de concerts musicaux. Vous jouez seul aussi le 19 octobre au Festival de Marne, par exemple. On donnera plusieurs dates pendant.
Oui, on vous l'apprend.
Notez-le, oui. Dany, dans votre agenda. Alors, ce livre, bien sûr, moi je l'ai relu là ce week-end. Il y a bien sûr l'enfance à Perpignan, l'arrivée à Paris, les séances photos comme mannequin, le coup de foudre avec celui qui devient votre mari, la chanson, la revue, la nuit, la dope, la passion pour les roses.
Mes enfants.
Et vos enfants, bien sûr, et bien sûr, évidemment. Quel passage de votre vie vous avez choisi de lire ? Les extraits ?
On a fait tout un peu en relation avec la musique. Donc Emmanuel, elle commence et elle raconte les auteurs-compositeurs qui m'ont offert toutes ces chansons que j'adore. Après, on chante un ou deux morceaux ensemble. Après, elle relit un petit morceau sur les roses. Et après, elle raconte aussi l'histoire de l'Eurovision. Et puis, on chante ensemble encore. C'est plutôt très festif et très inhabituel. Et puis, Emmanuel, elle est... Voilà, c'est un peu...
Vous êtes choisi, vous l'avez choisi.
Comment ça s'est fait cette histoire? Moi, j'étais incapable de lire ce qu'on a écrit. Je saurais pas le faire. Et pour le Printemps de Bourges, on m'a dit mais comment on pourrait faire? Ça serait bien si ça, ça. Et j'ai eu cette idée. J'ai appelé Emmanuel et je lui ai dit ça te branche de faire ça. Et elle tout de suite, elle a dit oui. Donc on est une sacrée équipe.
pour faire vite sur l'Eurovision. Par deux fois, vous n'y êtes pas allé.
C'est extraordinaire. Et moi, j'étais très contente, je vais vous dire, parce que de défendre une chanson en 3 minutes avec cette pression, moi, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Mais déjà, il y a la pression quand même quand on prépare une Eurovision.
Un concours,
voilà, ce sera plus
simple. Il y a l'ellipse du mot concours, on va dire.
Et j'étais très confort de ne pas le faire, parce qu'au bénéfice du doute, la première fois, en tout cas, j'ai été invitée partout en Europe, on a chanté le truc. Et après, l'histoire de la chanson de Serge, que les gens de l'Eurovision n'ont pas voulu parce qu'elle était trop... ça parlait de flingue, ça parlait de cœur exsangue, c'était pas fait pour l'Eurovision, enfin bon.
Qui sera né dans le
tube.
Il n'était pas prêt.
Oui, c'est ça.
Il préférait poupée de tir, poupée de son avant, etc.
Ah non, mais ça, c'était bien aussi. Mais bon, après les chansons qu'il proposait, je sais pas, je les ai pas senties. Ouais.
votre livre, tiens, il s'ouvre sur une date funeste, c'est la mort de votre attaché de presse et grand ami Tony Krantz. Vous avez ouvert dessus, et donc quand on lit tout le livre, on sent qu'à un moment où vous la rencontrez, elle est en filigrane là, qui vous soutient. Est-ce que vous pouvez raconter l'importance qu'elle a dans votre vie?
Alors cette femme, on s'est rencontrée quand moi j'ai fait mon premier disque chez EMI. Elle est arrivée aussi pour ce nouveau métier qui était les relations publiques à ce moment-là. Et puis... ça a été, quand je vous dis un coup de foudre artistique, c'est une femme qui a accompagné beaucoup d'artistes, Barbara, Coluche, Muriel, et d'autres, comment il s'appelle, James Brown, enfin tout le monde, Tam Lamotan, elle a fait quand même tout ça et tout. Et c'est quelqu'un, qui donnait confiance. Donc quand elle me disait quelque chose, le regard qu'elle avait sur moi, en tout cas, et sur les autres artistes aussi, c'était un privilège. Et voilà, elle m'a accompagnée toute ma vie et je la regrette beaucoup. Mais elle me tient la main là-haut, je pense.
On le comprend dans le livre. Votre roman, il est aussi dédié à tous ceux qui vous ont écrit des chansons. Ils sont énumérés au tout début du livre. Il y a plus d'une cinquantaine de noms. J'ai pas vu une seule femme. Il y a que des mecs qui vous ont écrit des chansons.
Bah oui, parce qu'encore les femmes, c'est compliqué de faire ce métier-là. Mais on y arrive, on est en train d'y arriver, d'être auteur. Là, avec Erenan, avec Emmanuel, justement, on chante une chanson à elle qui s'appelle Dingue, Dingue, Dingue. Ouais. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivaient. Et puis, je sais pas, les mecs, voilà... Je devais les faire rêver, peut-être.
Ouais, si vous n'osez pas le dire, vous avez inspiré.
Ils essayent de vous pécho en vous écrivant.
C'est tous des amis, franchement.
Oui, on dit ça dans le showbiz.
Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, après, je peux faire des parenthèses aussi, non?
D'ailleurs, Alex, vous avez écrit une petite chanson.
Ah, c'est vrai?
La nuit ne dure pas, c'est une phrase tirée de la chanson Rouge Rose, c'est ça? Écrite par Daniel Darc, et que vous reprenez sur l'album qui est paru en 2016, qui porte le même nom, La nuit ne dure pas, Dany. On parlait de votre voix dans le petit sketch d'ouverture. C'est vrai que quand on relit votre livre, je rappelle, il est paru chez Flammarion avec votre vie passionnante, et qu'on réécoute Vive l'enfance en 2016, waouh, le réenregistrement, c'est très émouvant de réécouter cette chanson après avoir lu le bouquin.
C'est une chanson de Jacques Dattin et Maurice Vidalin qui ont fait toutes les chansons de Becco. Mmh. Et quand ils m'ont porté ça, vous savez, on enregistrait, on prenait juste la tonalité, les orchestrateurs faisaient la musique, et puis il fallait vous mettre dessus à la tonalité comme ça. Donc chanter, évidemment, il fallait avoir des voix, et puis avant de trouver la sienne, et avec le temps qui aide, et la cigarette. voilà, mais j'adore chanter cette chanson, je trouve qu'elle n'a pas pris une ride.
Et sur le dernier album aussi, Étoiles et revers, qu'on va écouter, et justement vous jouez de la voix, parce que sur le clip, je vous conseille de regarder le clip si vous avez l'occasion, car le clip met en scène une jeune fille dans une robe qui pourrait être un peu fin des années 60.
Oui, c'est ça.
Et puis, il y a votre voix aujourd'hui posée dessus, alors qu'on peut réécouter aussi dans son ancienne
parce que
version.
Moi, je trouve que...
Et le contraste est génial pour le clip.
Oui, parce que je trouve... Moi, j'aime pas trop les clips. Je trouve que... pour moi, ça enlève quelque chose à la chanson. J'aime bien me faire les images sur une chanson qu'on écoute ou qu'on aime. Bon, et après, d'imposer, il y a des très beaux clips, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais... Après, c'est un peu la mode, les machins, les gros plans. Enfin, bon,
celui-là est très réussi, il est très sobre. Je vous conseille
pas moi,
de
je
le
suis
regarder.
Pas dessus. Ouais. C'est cool.
Oui. On l'écoute. Étoiles et revers, c'est donc Dany qui est avec nous. C'est lecture musicale avec Emmanuel Seigné à Paris, par exemple.
Ce n'est rien, presque rien. Un bonheur qui sont et s'en va, puis se perd dans les airs, les jardins. D'un instant à l'autre, le vent du sud va tourner pour tout me reprendre et tout me ramener. Ce n'est rien, c'est sans fin, un chagrin.
Étoiles et revers, une chanson que Dany reprend avec Emmanuel Seigné lors de ses lectures musicales qui passeront par exemple le 12 avril prochain à Bergerac et à Marc-en-Barœul, ce sera le 9 février car vous êtes en tournée de lecture musicale et vous jouerez seul aussi les 26 et 27 janvier à Toulouse et on vient d'écouter un extrait de La Nuit ne dure pas, l'album. Vous marrez, qu'est-ce qui se passe?
Chaque fois que vous donnez une date,
je sais que demain on s'en va à Dijon.
Oui, je je vous le dis. Attention, parce que jeudi, vous êtes à Lyon. Hein.
Oui, c'est ça.
N'oubliez pas, vous avez vos tickets de train.
Non,
tout
non,
va bien.
Oui, oui, c'est ça.
On va vérifier.
Vous êtes quelqu'un qui vit au jour le jour. Et c'est ça qui est beau aussi. Hein. Janvier, Toulouse, on ne sait pas. Voilà.
Bah, plus non, je donne de date.
Imaginez ce qui va nous arriver tout à l'heure. On ne sait pas, là, regarde.
Vous jouez également à Saint-Pierre-et-Miquelon au mois de mai. J'espère que vous êtes au courant. C'est un peu loin.
Le 26.
Demain, vous êtes à Kaboul, par exemple.
Notez, Dani, faites vos visas, enfin. Vous avez votre visa pour Kaboul. Pour entourer Dani.
Eh bien, il y a Guillaume qui dit des bêtises, Djoubaga qui veut nous parler musique et Juliette Arnaud qui a beaucoup lu.
Et un léger passage par l'information radiophonique. C'est important.
Monsieur Colomb, qu'il aille s'occuper de ses petits-enfants, des pâquerettes dans les bons restaurants de Lyon.
Le journal de presque 17h17.
Moi, je vais aller dans l'ensemble de ces quartiers.
Commence par les titres.
C'est la journée internationale de la non-violence.
Voilà, autant vous dire une journée de merde pour Alexandre Benalla.
Gérard Collomb a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé.
Et c'est bien la peine de nous emmerder avec une loi pour faciliter les licenciements si d'un autre côté il empêche les gens de démissionner. Je ne plus rien.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Je vous ai proposé de faire démissionner les brèves et vous avez refusé.
C'est vrai, j'ai cédé. Et c'est donc l'info politique du jour. Gérard Collomb a remis hier sa démission à Emmanuel Macron, qu'il l'a refusé.
Et en même temps, c'était pas à Emmanuel Macron d'accepter ou non cette décision, je vais vous dire.
C'est vrai, vous voulez dire que techniquement, c'est au Premier ministre Édouard Philippe qu'il devait remettre cette démission.
Non, on s'en fout d'Édouard Philippe. C'est Léa Salamé et Nicolas Demorand qui doivent accepter ou non la démission sur cette antenne, sinon c'est pas accepté.
Passons à droite.
Oui, dans la matinale de LCI, Rachida Dati s'est exprimée à propos de la PMA.
Aujourd'hui, la PMA pour toutes, elle conduit à dire que finalement le père n'est plus indispensable, n'est plus nécessaire à la structuration de l'enfant ou à son éducation.
Rachida Dati qui insiste sur l'importance pour un enfant d'avoir un père. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la maternité.
International, oui.
Non mais elle s'écoute pas, elle s'écoute pas parler. L'ancien ambassadeur de France et ex-patron de la DGSE, remettez-vous, il y a encore une demi-journée à faire. J'avais su, je l'aurais bien à la fin. L'ancien ambassadeur de France a tenu des propos qui ont choqué l'Algérie en déclarant au Figaro
que le président Bouteflika était maintenu en vie artificiellement.
Et c'est vrai que c'est choquant. Franchement, il pourrait avoir un peu de respect pour les morts.
Revenons à Paris, où les cimetières connaissent une affolante flambée des prix. 15 000 boules les 2 mètres carrés.
Et oui, bientôt, c'est plus le père Lachaise, c'est bientôt le père le trône, en or massif et serti de diamants.
Allez, toujours consommation.
Consommation. À partir du 12 octobre, c'est important de le savoir, les carburants vont changer de nom à la pompe.
Oui, l'essence sera signalée par une étiquette ronde et la lettre E, tandis que le diesel portera la lettre B dans une étiquette carrée.
Et c'est logique, E comme essence et B comme diesel. Évidemment, on s'est trompé sur la lettre en gras. Comme baiser, éventuellement.
Dani est à fond. Allez, les pêcheurs normands sont en colère après l'ouverture de la pêche à la coquille. Leurs bateaux sont revenus à moitié vides parce que les pêcheurs anglais ont tout pêché.
Et ils sont même doublement dégoûtés. D'abord parce qu'ils se sont rendus compte que les anglais avaient pêché toutes leurs coquilles. Et ensuite, ils ont imaginé comment les anglais allaient les cuisiner. Et ça fait très très mal.
Sport toujours, hein. Oui. Ryder Cup, la spectatrice blessée par une balle de golf a perdu la vue de l'œil droit et s'apprête à porter plainte.
Ça n'aura aucune chance d'aboutir, je pense.
Ah bon, qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Écoutez, ça fait des années qu'Olivier Giroud, il frappe tous les ballons dans les tribunes et il n'y a jamais personne qui a été condamné.
Les brèves, les fameuses brèves, Daniel,
les brèves. Les fameuses brèves. Oui. VAR, 2 points. Ils veulent dévaliser un distributeur de billets avec un tractopelle, mais cassent l'engin et repartent sans rien. Donc voilà, pour les braquages qui puent-vous bien, hein, on n'achète pas son tractopelle à la grande récré. On fait bien attention.
La dernière.
Et la dernière, près de Valenciennes, un jeune chasseur s'est tiré une balle dans le pied. Et donc, la question qui nous taraude maintenant, ce jeune, il chasse du combien? Voilà, bien sûr.
Oui, oui.
Terminé là-dessus.
C'est magnifique. Si vous voulez le prendre en première partie, Dani, il est disponible. Hein.
Je chauffe la salle.
Il chauffe l'ambiance.
Ah oui.
Il est.
Problème.
Il est 17h26 à Castres. Spécial casse dédié pour Dani.
Ah bah oui,
évidemment. Et tiens, on va parler un peu mode. Je sais que vous aimez ça. Les défilés de la Fashion Week.
Vous avez l'air aussi étonné que les dates de concert.
Est-ce que vous êtes bien, Dani? J'ai l'impression qu'on a invité Étienne Daou.
J'adore.
Votre maman était modiste, elle faisait
des
oui,
chapeaux.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'adore la mode. Ce matin, d'ailleurs, je suis allée voir le défilé Chanel.
Ah, ah bah voilà, voilà, vous allez nous dire.
Mais c'est le seul que je vais voir.
Ah, bah vous allez me dire. Attendez, je vais lancer le sujet d'abord. D'accord. Attends, on va faire les choses dans l'ordre, sinon je suis toute perturbée. Donc, les défilés de la Fashion Week parisienne cherchent le grandiose et le délirant. Vous allez nous confirmer ou pas, Dany. Un podium a en tout cas été installé sur la Seine, le fleuve. Hein. Bah, podium Seine, pardon, mais oui. Que ce soit clair, qui a interrompu le trafic fluvial pour l'occasion. Certaines stations de métro ont même été fermées ce week-end et quelques rues ont été fermées à la circulation. Hidalgo, démission !
Notre drame de Paris, c'est elle. Hein. C'est ouais. Le drame de Paris, notre drame de Paris, c'est quand même elle.
C'est pas, on la note aussi. Alex Vizorek noté. Tout ça pour que L'Oréal puisse faire sa pub. Alors même dans les défilés de mode enfant, vous savez qu'il n'y a plus de limite, écoutez.
Donc on va remballer les chamallows, on va remballer la petite partie miteuse de Laser Game dans le 14e arrondissement de mes couilles et on va m'organiser une grosse fête. Une putain de vraie grosse fête, les gars! Ce que je veux, c'est un château avec un parc. Je veux des fontaines de limonade de toutes les couleurs. Je veux des montagnes de bonbons. Je veux des gamins. Je veux de la musique. Et je veux que tout ça, ça soit chouette. Et j'ai fait une liste d'invités.
Pardon, Hicham, je suis pas sûre que Léa Seydoux soit très tentée par une partie de Laser Game.
Qu'est-ce que t'en sais, Hervé? Qu'est-ce que t'en sais? Vous démerdez pour me ramener au moins Julien Doré et Norman.
C'est un extrait de la série 10% avec ici l'acteur Assaad Bouab. Alors, oui, vous avez assisté au défilé Chanel, c'est ça? Nous, on en a une vision grandiloquente avec des décors de Maboul.
Non, mais alors, le génie dans cette histoire, c'est quand même Karl Lagerfeld, qui est un ami à moi depuis toujours, depuis que je suis arrivé à Paris, il est arrivé aussi à Paris. Ouais. Et voilà, j'admire ce mec et je trouve que c'est des créations à chaque fois absolument sublimes et qui font vivre beaucoup de gens et des métiers dont on ne parle jamais. Mm-hmm. Mais tous les métiers qui sont autour d'un défilé de mode, c'est quand même exceptionnel. Ça va de la décoration aux petites mains, enfin tout ça, ces tissus, à ces matières qui sont magnifiques.
Est-ce que vous arrivez encore à regarder finalement la proposition, la création, les modèles, tant le décor est époustouflant? Parce que nous, ce qu'on en voit à la télévision, le décor est tellement dingue qu'on finit par regarder le décor et en parler et ne plus regarder les créations.
Oui, mais alors ça vient du caméraman, il a qu'à cadrer à un moment donné quand il y a le décor, la vague et puis la petite cabane. Quoi. S'il regarde que le décor et qu'il ne voit pas passer le modèle, quand même, c'est bon. Je dirais rien après.
Et donc c'était où
c'est toujours au Grand Palais, Karl Lagerfeld.
Et
là
quoi,
c'était
la
plage. La plage. Alors il y avait un.
Il avait amené une plage.
Il y avait une plage avec l'eau. Les mannequins passaient dedans, les chaussures à la main. C'était magnifique.
C'était en maillot de bain.
Non, avec des fringues normales, haute couture. Ouais.
Alors on rappelle toujours que c'est quand même la mode, c'est le deuxième plus grand pollueur de la planète. Alors quand voit des oui, bah figurez-vous que oui.
Est-ce que dedans il n'y a pas les cosmétiques qui vont avec les marques?
Non, parce que les cosmétiques c'est pas pareil que la mode.
Je pense que c'est une globalité.
Mais la mode c'est aussi par exemple les grandes chaînes comme H&M, Zara, et c'est ça aussi.
Oui,
c'est ça.
Oui. Ah, oui, bien sûr.
Je vous rassure. Et justement, je me permets de lire un extrait de votre livre qui s'appelle Mes bottes de sept lieues.
Oui.
Vous venez de débarquer à Paris, de Perpignan, et vous dites, c'est un très court chapitre, mon acte fondateur, je mise toutes mes économies sur cet achat, comme dans les contes de Perrault, le chat botté, les bottes de sept lieues et le petit pousset. En les chaussant, je sais que je m'éloigne de mon enfance pour entrer dans ma vie d'adulte. Je gagne en assurance, que je n'ai pas encore. D'un coup de baguette magique, j'ai l'illusion, l'ivresse d'acquérir mon indépendance. Voilà comment enfiler des bottes.
Oui,
vous avez fait entrer dans la vie adulte.
Parce que mon père voulait pas me les acheter à Perpignan, ces bottes-là. Bah, j'ai dit, tiens, comme il avait donné un peu de sous pour arriver. Direct, je suis allé, gare de Sterlitz, direct. C'est vrai, hein. Je les adore.
Dany avec nous, c'est un extrait bien sûr de La nuit ne dure pas, paru chez Flammarion. Et vous en faites des lectures musicales avec Emmanuel Seigné dans toute la France.
Non, c'est elle qui lit, hein. C'est, lecture musicale, ça fait un peu sérieux.
Vous faites musique, on imagine bien que c'est un truc un peu déglingo. Notez, Dany, vous êtes à Chambon-Feugerolles le 9 mars 2019.
C'est noté.
J'espère bien, parce qu'il ne faudrait pas louper ça.
Oh, Chambon-Feugerolles.
Oui, à côté de Saint-Etienne.
Oui, pardon.
Ah, on dit où?
C'est à Chambon.
Oui. Ah, oui. Ah oui. Oh, Chambon même.
Très bien.
Vous êtes de là-bas?
Eh oui.
Ah, la province qui monte à Paris, quoi.
Ah bah, quand même. Telle qu'en elle.
Et la Belgique aussi.
Eh oui, bien sûr. Et le Djoubaka, vous venez d'où, vous?
Ah, moi, je suis de Parigot.
C'est
ça qu'on va mettre Djoubakoua, aussi, des fois. Alors, c'est moi qui vous cause. Je vous cause de Cédric Burnside, qui vient de sortir un disque hypnotique qui s'appelle Benton County Relic. Et la vie de ce garçon, est lié au blues. En fait, c'est un enfant de la balle quand même, hein. Il vient des collines du nord du Mississippi, la région Dolling Springs. Et si vous avez plus d'imagination qu'Alex Vizorek, vous savez bien qu'il n'y a pas qu'une seule forme de blues. On ne joue pas le blues à la ville comme à la Cambrousse, ni à la Nouvelle-Orléans, comme à Chicago. Et du côté de Dolling Springs, on joue du Hill Country Blues, qui est très proche de la transe africaine, oui, en utilisant souvent le même accord, en répétant la ligne de basse à l'infini, comme pour une transe justement. Les riffs de guitare sont incisifs, mais eux aussi forment une boucle. Traditionnellement, on y intégrait, quand il n'y avait pas de guitare, une flûte héritée de la guerre de sécession, et c'est vachement joli. Et puis surtout, il y a la batterie qui tient le tout, et qui se fait voodoo, comme sur cette chanson, Take Me Cold Day. Ce style de blues a connu en fait une forme de renaissance dans les années 2000, quand les White Stripes, les Black Keys ou le John Spencer Blues Explosion se sont appropriés cette identité musicale. Mais je vais revenir quand même à Cedric Burnside, qui va le jour lui en 1978. Et vu sa date de naissance, on aurait pu penser qu'il serait élevé à un autre son, à une autre musique. Ça aurait pu arriver, mais il aurait fallu qu'il naisse dans une autre famille en fait, ou que d'autres fées se penchent sur son berceau, parce que son père, Calvin Johnson, est un batteur qui va développer et expérimenter une forme de blues qui croise le funk. Il est souvent sur la route, le papa, et pas souvent à la maison. Et puis côté famille, toujours, il y a le grand-père de Cedric, qui est le très très grand bluesman R.L. Burnside. Alors je vais vous la faire courte sur le jeu des sept familles, mais papy Burnside commence à travailler au sortir de la guerre mondiale. Il pratique mille métiers, mais il est surtout métayer et prêcheur, ça va l'aider pour le blues. Et lorsqu'il a 20 ans, en fait, il entend Johnny Hooker, et là il arrête tout, et il décide de se mettre à la gratouze. Il joue naturellement le blues de la région où il est né, à Howling Springs. Et puis, si on veut décoller, en fait, à ce moment-là, il faut aller à Chicago, et il rejoint ses cousins. Il essaye de se faire une place dans les pubs, les clubs locaux, mais une grande partie de sa famille est assassinée lors d'une risque, et donc il repart à Howling Springs, et après il bouge plus trop, hein. Ni une, ni deux. Bah non, ça faisait beaucoup d'un coup, là. Et il va populariser, en fait, ce schisme du blues vers le grand public. Il improvise souvent des textes, comme le ferait un prêcheur, mais souvent les mêmes, ou des petits toastings comme ça. Et puis, il va permettre à Cedric, en fait, de vivre une autre vie. Parce que, à un moment, le père de Cedric Burnside, Calvin Johnson, lorsqu'il a 13 ans, se casse en Europe. Hop, c'est fini, il ne voit plus son gamin, il s'en va, il va faire une carrière là-bas. Mais le papy, vous avez compris un peu le truc familial, c'est compliqué, mais le papy R.L. Burnside, eh ben, il décide de mettre illico le gamin derrière la batterie, il a 13 ans. Et il va l'accompagner comme ça pendant les tournées qu'il va faire dans la région et une grosse partie aux États-Unis. Et bien qu'on roule pas sur l'or, en fait, chez papy Burnside, c'est vraiment un cadeau pour lui d'être... d'avoir son petit-fils avec lui, parce que la maison, elle est vraiment pauvre. Il n'y a pas d'eau courante, on est quand même dans les années 80-90, il n'y a pas de télévision, et pour un gamin qui est né juste avant les années 80, je vous laisse imaginer dans quel décalage il vit, quoi. Ou alors aujourd'hui, ben Cedric, c'est un batteur hyper reconnu, multi-awardisé, il en a 4 ou 5, et il lui restait plus qu'à pousser de la voix, puisqu'il était toujours derrière les gens. Et il joue pour ce disque de la guitare, il a laissé un de ses amis à la batterie, il perpétue ce blues qui est quelque peu resté figé dans le temps, et ça c'est ce que j'aime bien. Il est témoin d'un groove presque africain, rugueux, et qui est sans concession, c'est l'Hill Country Blues, et on écoute « Give it to you ». I see you, babe, down the street, you looking good. Looking good to me. I wanna talk to you, but what would I say? You look so classy, I want you, babe. I wanna give it to you, babe. I wanna give it to you, babe. Wanna give it to you. In the club, I saw you dance. You look so good, baby, dance. The way you shake your body look good to me. I wanna give you what you want in me.
I wanna give it to you, babe. I wanna give it to you, babe. I wanna give it to you. Give it to you.
Cédric Burnside, on a écouté Give It To You, le choix musical pour la chronique de Djoubaka.
Oui, ça sort sur Lock Records.
Merci, Djoubaka.
Achetez-le, c'est vachement bien.
Bah ouais, c'est très très bien, c'est très classe. Ça vous a plu, Dani?
Oui, ça me plaît beaucoup.
Très très
ça,
beau.
Ça va, on peut y aller, quoi.
Ouais, bon, c'est du choix sûr. C'est mon gars sûr, c'est Djoubaka. 17h37 sur France Inter, en compagnie de Dani. Emmanuel Seigné lit des extraits du livre « La nuit ne dure pas » de Dani, paru chez Flammarion. Et Dani chante, ce sont des lectures musicales. Vous êtes vendredi à Grasse, Dani. Notez-le,
si vous avez oublié. Il y a les parfums, c'est magnifique.
Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice, oui, que la France Inter entière attend.
Eh bien, je vais vous parler de discrimination aujourd'hui, ça rigole pas. Ségrégation raciale, ostracisme vis-à-vis des automobiles, notamment à Paris, où un véritable génocide est en cours. Hein. On le sait, la Himmler du joint de culasse s'appelle Anne Hidalgo. Ses méthodes pour lutter contre le réchauffement climatique font froid, mais uniquement dans le dos. Heureusement, la résistance s'organise et c'est Lucie Aubrac de la Gentalu. C'était donné rendez-vous sur la place de la Concorde pour organiser un grand défilé de bagnoles en prévision du salon de l'auto. Ça faisait du bruit et ça puait, on se serait cru sur le plateau dont on n'est pas couché. Et j'étais là pour interroger les victimes de la barbarie.
C'est chiant, faut dire tout de suite, voilà quoi. Quand on a une voiture, on aime bien s'en servir. Et c'est vrai que on est poursuivi quand même.
Vous êtes poursuivi?
Oui, je suis traqué.
Et ouais, c'est une véritable traque. Hein. On peut parler aujourd'hui d'apartheid de la courroie de transmission. On cache des pare-chocs dans des caves. Il y a des volants sport et des ailerons qui fuient pour rejoindre leur pays, hein, le Nord-Pas-de-Calais, hein, la patrie du tuning. Enfin bref, ça rappelle les heures les plus sombres de la durite et du turbo-diesel. Tout ça au nom de la sacro-sainte lutte contre la pollution.
Oui, c'est un problème de pollution. Oui, c'est vrai. Mais bon, non, je pense qu'on peut le traiter autrement.
Voilà. Comment on peut le traiter? Est-ce que vous avez une expertise pour traiter la pollution?
Non, pas du tout. Pas
ah mince.
Du tout. Voilà, bon. Mais la voiture, bon, bah j'aime, hein, il n'y a rien à faire. Hein.
On aime, hein. Quand on aime polluer, c'est comme ça, hein. C'est comme les télés et les radios, elles aiment inviter Éric Zemmour, voilà, même France Inter, on aime polluer. Quand on aime bien, hein. On pourrait inviter aussi des gens qui disent que la Terre est plate, on aime bien polluer, hein, que la Shoah, c'est une campagne de pub pour la SNCF, on pourrait faire ça, hein, ou que Gérard Collomb est encore en vie, pourquoi pas, parce qu'on aime bien, on aime bien polluer. Ou alors, des gens qui disent que la pollution liée aux humains est négligeable, alors heureusement que quand même je suis là pour donner la parole à ces gens-là.
Je veux bien, on peut fabriquer des statistiques comme on veut, mais bon, j'y crois pas beaucoup. L'histoire de la pollution, moi, je suis convaincu que les volcans polluent beaucoup plus que les voitures.
Ah oui, vous pensez?
Les éruptions volcaniques, c'est énorme, dans la couche d'ozone.
Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, oui.
La pollution atmosphérique due aux automobiles, à mon avis, est infiniment moindre que celle des pollutions naturelles.
Ben, je suis bien d'accord avec ça, moi. On parle jamais des pollutions naturelles. Quand un poisson pisse dans l'océan, on dit jamais rien. Hein, quand un volcan pète, on va prendre des photos, on trouve ça sympa. Je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures, quand même. Hein, il serait temps, d'ailleurs, de penser à boucher les volcans. Comment ça nous emmerder, cela? Ça ferait du boulot pour tout le monde. Mais attendez, il y a pire.
On peut pas lutter contre les éruptions solaires non plus.
C'est vrai,
parce
oui.
Parce que les éruptions solaires jouent sur la couche d'ozone. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes climato-sceptique? Vous pensez que...
Je ne suis pas climato-sceptique, je suis sûr que le climat change. Mais je ne suis pas convaincu qu'il soit uniquement dû à l'homme.
Ouais, bon, ça c'est la définition quand même du climato-sceptique, mais ouais, mais sinon il a raison, le soleil nous emmerde, hein, c'est bien à cause de lui qu'il fait chaud quand même le soleil, jusqu'à preuve du contraire, hein, évidemment, quand on est au pouvoir, c'est plus facile de s'en prendre au propriétaire de la Twingo, hein, qu'au soleil, voilà, ça me dégoûte là, tous ces pseudo-scientifiques qui se sont mis d'accord pour dire qu'il faudrait que l'homme calme le jeu sur les gaz à effet de serre.
Ben non, il y avait Allègre qui pensait pas comme ça, lui il pensait ce que je dis.
Ouais.
Oui.
Est-ce qu'il est climatologue?
Non, il n'est pas climatologue, mais la climatologie, ça recouvre quoi? Il faut être vulcanologue peut-être aussi en même temps. Il faut...
Et là, on revient au volcan, effectivement.
On revient au volcan. Moi, je trouve que, en ce moment, d'ailleurs, les volcans, ça marche. Hein.
Ah bah ça marche, ça marche. Ça marche. Il y a une mode, hein. Il y a clairement une mode du volcan. Hein. Ça te vend du volcan à droite à gauche. Tout le monde veut son volcan. Hein. Il fait la une des magazines, il se tape des mannequins. C'est le footballeur professionnel moderne, hein, le volcan. Allez, il est temps de conclure sur la bagnole et c'est bien fait avec une belle métaphore.
C'est les globules rouges, en fait, les voitures.
Les voitures, c'est les globules rouges ?
Bah oui, pour que Paris respire.
Moi, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était ça qui faisait de la pollution.
De toute façon, il faut que ça évolue. Et c'est vrai que la pollution, c'est énorme et il faudra trouver une solution. Mais l'homme est assez intelligent, il en trouvera une.
Vous trouvez que l'homme est intelligent ?
Ah oui, oui, mais pas toujours dans le bon sens.
Oui, voilà, c'est, oui, 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 c'est ça le problème, l'homme est intelligent, parfois dans le mauvais sens. Ça cause quelques déboires quant à notre survie, mais pas de déboires où conduire. Il faut choisir.
Guillaume Meurice, merci. À 17h42 sur France Inter.
Il y avait un jeu de mots sur la fin.
C'est génial. 17h42 donc, sur France Inter, Jupiter, avec Dani, la chanteuse, hein, pas le 68 heures. Alors, Dani avec nous, on va parler tiens, de ces étudiants à Sciences Po Paris qui sont issus de milieux ruraux, de petites villes et qui se rassemblent pour braver leurs complexes au nom de l'égalité des chances aussi. Alors quand on vient de Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple, c'est un exemple donné par Libération ce week-end, mais c'est déjà pas évident de monter à Paris, et ça l'est encore moins de s'y sentir bien intégré dans une école quand même très très parisienne.
Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras, je ne suis pas cinéphile, c'est débile, je ne suis pas MLS, je sens qu'on m'en fait griller,
Pour Djoubaka, c'est Marie-Paul Bell qui chante. Au cas où.
Ça n'est pas votre choix musical.
Ne m'en faites pas grief.
C'est pas sur la playlist France Inter. Mais c'est ça que fait du bien à réécouter.
Ah bah oui.
Très marrante cette chanson.
Marrante.
Dani, tout ça pour parler de. Finalement aussi, vous, de votre intégration à Paris.
Moi, je suis la province, oui.
Ouais, donc c'est-à-dire ces étudiants, vous comprenez leur démarche, ils arrivent à Paris, ils sont un peu perdus.
Ah, mais il faut qu'ils mettent l'overdrive, je sais pas. Normalement, quand on vient de la province, on a plus de niaque.
Ah ouais.
Que les gens qui habitent à Paris. Mais ouais. Moi, j'ai. Enfin, je sais pas, tous les gens. Il y a plein de gens connus qui sont de la province, non ? Même
bien
le
sûr.
Président, il n'est pas d'ici.
De Tulle ? Le Macron d'Amiens. Oh là là,
ça
c'est bloqué en 2012.
Non, je sais pas, il y a plein d'artistes, d'hommes politiques, de savants qui ne sont pas de Paris.
C'est vrai. Donc, et c'est vrai, vous avez raison, ça donne plus
que
maniaque.
Quand on vient de la province, on a un peu plus.
Mais c'est le côté Rastignac, du coup, à nous de Paris, quoi.
Oui,
on
c'est
a
ça.
Envie de venir conquérir.
Bah oui.
Vous, votre intégration, vous le racontez dans le livre La nuit ne dure pas, ça a été par exemple de vous asseoir à la terrasse du Flore.
Oui, non, mais j'ai fait ça, mais
ouais,
comme
une
idiote, par exemple, j'arrive aux Champs-Élysées, je vois Jour de France, c'était le seul magazine qu'on lisait à Perpignan, enfin, il y en avait où elle, je sais pas, enfin, tout ça. Et j'ai dit, tiens, je vais voir s'ils veulent me prendre pour des photos. Et alors, on arrive au bon moment, avec un coup de chance quand même, j'ai fait des photos 15 jours après, donc voilà, je savais pas trop faire ça non plus, hein, j'ai la gueule enfarinée, l'inconscience de quand on a 18 ou 20 ans, quoi, hein, à ce moment-là.
Le sacré culot, oui. Et à la terrasse du Flore, par exemple, vous rencontrez Zouzou.
Ah oui, ma grande copine.
Ouais.
Mais voilà, non mais au Flore, je sais pas
Zouzou
si c'était
la twisteuse.
Parce qu'on pouvait fumer dedans encore, donc je pense qu'on était dedans aussi. Et voilà, le Flore à ce moment-là, c'était quelque chose d'insensé. Il n'y avait pas le téléphone, on pouvait garer les voitures n'importe où.
Et c'était plus facile d'aborder les gens ?
Ah, c'était différent, il y avait un peu plus d'intrigue quand même. Il fallait faire des petits mots, ou se faire demander au téléphone. Enfin, c'était... je sais pas, bon après... Moi, je vis avec les choses qui se passent aujourd'hui, avec tous ces engins auxquels je comprends pas grand-chose, mais voilà, ils ont sûrement du bon. Mm-hmm. Les téléphones, quand on appelle quelqu'un tout de suite.
C'est bon, avant, est-ce que vous avez, quand vous êtes arrivé, vous aviez un accent, j'imagine.
Mais bien sûr, je l'ai quand je me mets en colère.
Ah, c'est vrai.
Et j'ai appris
ça
chez Berlitz. Non, mais j'en sais rien. Non, mais ça, l'accent, c'est quand je vais même avec mes enfants à Perpignan, je sais pas, c'est inconscient l'accent. Hein.
Ça remonte.
Oui, ça remonte. Et puis quand je me et en studio aussi pour les E, les A et les finales aussi et sur scène aussi, mais c'est incontrôlable ça. Je peux pas.
Est-ce que vous dites chocolatine?
chocolatine.
À la place de pain au chocolat ?
Non, j'ai dit pain au chocolat.
On n'est pas une vraie du sud-ouest, alors on est d'accord.
Ah non, mais moi je suis de Perpignan, c'est pas le sud-ouest.
Ah,
c'est
mais
l'autre
Perpignan,
côté.
Ah, peut-être qu'ils disent déjà pain au chocolat. Ah, c'est vrai.
Pain au chocolat.
Peut-être, peut-être, ouais. Ça doit être à la limite.
Non, et pour vous intégrer à Paris, il fallait un petit peu masquer l'accent. Je pense que c'est une question que peut-être se posent aussi ces étudiants qui arrivent à Paris. Non ?
Non, je crois pas.
Vous l'avez perdu naturellement ? Vous n'avez pas cherché à
Non, ça s'en va et ça revient, comme dirait l'autre. Mais je sais pas, c'est un truc qu'on peut pas contrôler tout le temps, l'accent. Mais des fois, je me mets en colère parce qu'il paraît que je suis la pétardière de Perpignan.
Et vous, Guillaume, vous venez d'où ?
Moi, je suis né à côté de Dijon.
Ah, je viens demain. Voilà. Vous le savez, j'ai bien le dire.
Ah, ouais, bah oui, vrai, demain, vous êtes à Dijon.
J'avais des amis.
Pour les lectures avec Emmanuel Seigné. C'est vrai.
On va la remplir, cette salle à Dijon.
Mais ouais, bien sûr.
Non, mais ça va, je crois que c'est pleine.
Et Guillaume, vous aviez un accent ? Guillaume, vous aviez un accent ou pas ?
Oui, moi après j'ai grandi en Franche-Comté, donc l'accent de la Franche-Comté, on traîne les mots comme ça.
D'accord,
un peu.
Ouais.
Comme la Madeleine Proust qu'on a reçue l'année dernière.
C'est juste.
Et dans le Berry, on roule les airs.
Voilà. Et vous, Charline, vous aviez un accent, vous ?
Moi, aucun accent. Non. Surtout quand,
c'est vrai que
quand je m'énerve, il n'y a rien qui remonte. Il y a
entre 7 et 9.
Taisez-vous, 17h47 sur France Inter. Dans ce cas-là, moi je fais diversion. Bien et bon. Je laisse la parole à Juliette Arnaud qui a un conseil lecture pour nous.
Voilà. Et qui est arrivée, elle, en prépa dans le 16e avec l'accent pied noir. Ah, voilà. Elle a passé une bonne année, Juliette.
Alors, en venant du Maroc, c'est ça ?
Ah ben oui, j'arrivais du Maroc. Donc voilà. Bon, alors imaginez que quelqu'un dans la vie vous file une carte de visite et sous son nom, alors je sais pas, elle s'appelle Thérèse Leduc ou Germain Crampon, il y a son activité professionnelle et il y a écrit comptable, pirate et podologue. Eh ben vous tiquez, vous pensez même n'importe quoi lui. Et ben pourtant, celle de Tim Willox, l'auteur dont je vais vous parler aujourd'hui, sur sa carte de visite, le gars pourrait écrire grand maître d'arts martiaux, psychiatre et écrivain. Pour de vrai. Et par ailleurs, Tim Willox, c'est un rouquin et il a une proposition capillaire à chanter dans Metallica. Enfin, quand Metallica avait des cheveux, bien sûr. Pour vous dire que Tim Willox, c'est pas n'importe qui. Dans son dernier livre, qui s'appelle La mort selon Turner, son héros, Turner, comme son titre l'indique, n'est pas rouquin et blanc, il est noir. Il n'est pas écrivain, il est flic. Et comme lui dit sa vieille voisine du Cap, la ville où il vit, on dirait du Guillaume dans le texte, hein, je préviens, je ne comprends pas pourquoi un homme aussi intelligent que vous a choisi un travail aussi stupide. Ça ne s'arrête jamais, rien ne change et personne ne vous remercie. Et c'est même pas bien payé. Comme psychiatre, somme toute, moins le blé, bien sûr. Pauvre donc, le flic nommé Turner, puisque pas corrompu dans un pays qu'il est violemment, l'Afrique du Sud. Il est appelé une nuit dans un township du Cap qui s'appelle Nandjia. Alors le Cap, c'est sans doute une des plus belles villes de la planète, mais c'est aussi la capitale du meurtre en Afrique du Sud. Nombre d'homicides de 30% supérieur à celui de Ciudad Juarez au Mexique. Vous dire à peu près l'esprit. Bref, Turner arrive dans ce township en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il trouve comme victime ? Une fille, noire, jeune, pauvre, écrabouillée contre une benne à la suite d'une manœuvre avinée d'un conducteur de 4x4, ivre, blanc et riche. Alors, c'est pas un meurtre, c'est un accident. Ce qui est un crime, en revanche, c'est de foutre le camp en laissant la fille mourir misérablement de ses blessures. Ensuite, dans le roman, on quitte le Cap, qui est un terrain finalement assez connu de la littérature, et on file au Cap Nord, qui est une région septentrionale qui contient le désert du Kalahari. Sans dire en gros un lointain nulle part, la terre ancestrale des Boshiman, hein, vous vous souvenez de... Les dieux sont tombés
oui,
sur la tête.
Oui.
Où les hommes blancs ont ensuite cultivé la pierre et le sable à force d'entêtement et d'orgueil, un lointain nulle part. Et Turner va très vite comprendre que tout cet espace altère un petit peu l'esprit et la notion de vie. Et donc la notion de mort, puisque je vous le rappelle, le livre s'appelle « La mort selon Turner ». Et là, franchement, pas d'euphémisme hein, dans le titre, puisqu'au milieu du livre, on arrive à cette phrase que je vais vous lire, à la lecture de laquelle j'ai manqué à avaler ma langue. Alors j'y vais. J'ouvre les guillemets. « Il » au pluriel, les méchants, l'avaient laissé là, Turner, pour qu'il meure de soif, mais ils avaient laissé Rudy Britz, un gars qui est mort, avec lui, et Rudy Britz était constitué à 60% d'eau. Vous la voyez arriver, la méthode de survie ? Enterré, Mike Horn ! Reprends la broderie, John Rambo ! Meurs d'une cystite, John Wayne ! Sauf que Tim Willox, l'auteur, est aussi psychiatre. Et l'âme humaine et ses complexités, le nuancier qu'il y a entre le noir absolu et les dégradés de gris le passionnent. Alors ces méchants, notamment la puissante propriétaire du coin et mère de l'ivrogne conducteur d'un gros 4x4, Margot Leroux, et ses bras droits, ne sont pas des caricatures de méchants. Ils ne sont pas guidés exclusivement par des appétits de pouvoir ou d'argent. Ils se débattent, eux aussi, et l'habileté de l'auteur fait que la lectrice, le lecteur se débat lui aussi avec ses convictions qui commencent à défaillir. Sauf que Turner, l'auteur, le flic, lui, n'est guidé que par une chose, son état de flic non corrompu. Sa conviction que la mémoire de la fille anonyme laissée pour morte mérite que l'on mette l'intégralité du Cap Nord à feu et à sang s'il le faut. Et il va falloir. Merci, bisous, merci.
Faut suivre, hein.
Juliette Arnault.
Bravo, hein.
Rappelez toutes les références du livre, si vous voulez.
Alors,
bien.
Le monsieur s'appelle Tim Willocks. Le bouquin s'appelle La mort selon Turner. C'est chez Sonatine. Et le 16 octobre.
Eh ouais. Il sera dans Pop.
Ouais.
D'Antoine de Caunes.
Oh, yes. Eh oui.
Que vous avez bien connu, Dany. C'est écrit dans le livre.
Oui, bien sûr.
Je l'ai lu. Dany, la nuit ne dure pas. Elle est avec nous, Dany. On va profiter de votre présence pour aborder ce dernier sujet. Il y a un album posthume d'Alain Bachung, Coming Soon. Et le grand Charles nous a à peine quitté que la presse se pose déjà la question, figurez-vous, de savoir s'il va y avoir un album posthume, puisqu'il y avait des chansons en préparation. Alors, comment les écoutons-nous, ces inédits venus d'outre-tombe? Michael Jackson, vivant John Lennon, vivant Pablo Picasso, vivant Henri Michaud, vivant Marcel Duchamp, vivant Francis Picabia, vivant Marguerite Duras, vivant la Calas, vivant Tarantino, pas mort. Il s'est un peu foulé quand même. Philippe Catherine. Alors, c'est étrange ces inédits quand l'artiste a disparu. Vous les appréciez différemment? Vous allez vous précipiter sur l'album de Bachung ou pas?
Il me semble que quand quelqu'un s'en va, ça embellit toujours la personne. Et puis, ce qui nous laisse ou ce qui reste, on l'écoute forcément différemment. Ouais. Donc, on a écouté sûrement des tubes, plein de tubes. Et puis, il y a des bijoux dans les albums aussi. Peut-être que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Moi, je suis pour que des belles chansons et des artistes comme ça nous restent un peu fidèles et sur nos étagères et dans notre tête.
Mm-hmm. Djoubaka, peut-être aussi, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des artistes où il y a un album posthume, et donc comme ils ne sont plus là pour tout checker, ouais, qui choisit la qualité du son, on fait très attention, Dany, quand on veut un peu tout, enfin, faut adhérer 100% à ce qu'on veut.
Alors après, c'est une question de confiance, C'est très compliqué, très complexe, hein, il me semble. Hein. Mais après, moi, je suis pour que ces chansons, Barbara, enfin, tous ces gens qui nous quittent et qui laissent quand même des chefs-d'œuvre de chansons. Une chanson, c'est chaque personne a un moment avec une chanson ou un souvenir, ou c'est bien.
Djoubaka, une réflexion là-dessus?
Non, mais il y a différents. En fait, de toute façon, il y a les ayants droit, Moreau et autres qui sont là pour surveiller ce qui se passe, hein, quand même. Pour Bachung, il demandait souvent à des auteurs, en fait, de lui écrire des chansons. Et puis il allait il avait un processus d'enregistrement qui faisait qu'il allait jusqu'au bout en fait du processus d'enregistrement, ou alors il avait des maquettes. Et ce qu'on va entendre là, c'est des chansons sur lesquelles il a vraiment travaillé, il s'est vraiment investi, mais qui aurait pu se retrouver ailleurs. En ce moment, on vous passe Immortel de Dominica, ouais, mais par Bachung, qui est très très belle aussi.
C'est quoi les grands, je crois qu'on appelle ça l'album blanc quand ça sort après, ceux qui ont marqué l'histoire et qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que celle-là, ça valait vraiment la peine.
Celui qui a vraiment marqué l'histoire à ce moment-là, c'est Elvis, quoi. Parce qu'on a ressorti 150 albums depuis sa mort. Donc, c'est impossible même de tous les avoir quasiment. Et sur le dernier album, on a même sa mère qui chante. Donc ça, pour les fans, génial, c'est un truc incroyable. Donc les albums de postérité sont faits aussi pour les gens qui ont une relation presque passionnelle aussi avec les artistes.
Vous avez une belle voix aussi. Vous deux, vous feriez un duo formidable. Djoubaka, Dany. Dany, est-ce qu'on peut vous demander une des cordes à votre arc? C'est la comédie, l'acting.
Vous êtes formidable dans le film d'Alex Lutz. On en parlait, Guy.
Ah, le film est formidable.
Alors, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité.
D'accord.
Un rôle. Vous êtes agent immobilière. Parce qu'en ce moment...
Oh, ben ça tombe bien.
Ah ben voilà. Le Parti Socialiste qui devait déménager. Le nouveau bâtiment n'est pas encore prêt. L'ancien, ils les foutent dehors. Donc ils sont coincés. Ils vont devoir trouver de quoi se faire héberger. Olivier Faure, Guillaume Meurice et Laurence Rossignol, Charline Vanhoenacker, cherchent donc une petite solution. Et c'est évidemment Stéphane Plaza qui se lance pour leur trouver un appart. Bonjour les amis.
Bonjour Stéphane.
Alors, je vous présente Marie-Claude, notre agent immobilier spécialisé dans les lieux de travail.
Ah bah, il nous faudrait plutôt un spécialiste des lieux de repos, hein, vu ce qu'on fout depuis 2 ans.
Olivier.
Alors j'ai trouvé pour vous le siège parfait.
Ah, c'est un fauteuil roulant?
Olivier, arrête.
Bon, je vous y emmène, c'est à 2 pâtés de maison. Allez, on se met en marche.
Non, pas en marche.
Ah, ben pourquoi non? Ah, dépêchez-vous, c'est là-bas, dans l'impasse Georges Marché. Ah, j'adore.
Tu m'étonnes, évidemment.
Le voici, bon, la façade est un peu délabrée.
Hein. Oh, bon, ne vous en faites pas les ruines, on connaît bien.
Olivier!
Oui, donc c'est au rez-de-chaussée.
Parfait, comme ça ils pourront pas tomber plus bas. Il peut faire des vannes.
Il n'y a pas de responsabilité, lui.
Non, bah moi non plus, Romain.
Le bureau est composé d'une grande salle de réunion.
Ouf, oui, vous savez...
Quoi ?
Bah là, Olivier a raison, hein. Je sais pas si on va vraiment avoir besoin d'une grande salle de réunion. Hein, c'est...
Oui, mais vous êtes combien là au PS ?
12 ?
Non, Laurence, on n'est plus que 11 parce qu'il y a Emmanuel Morel là qui vient de partir chez Mélenchon.
Bon, bah alors on est 11.
Attends, je crois que Luc Carvounas c'est pas loin de filer.
Bon, bah un bureau pour une petite dizaine de personnes alors.
Il n'y a pas un bruit là ? C'est quoi le bruit ?
Ah, oh, c'est rien, c'est la chaudière qui s'est mise en marche.
Non, pas en marche. Ah.
Bon, alors si cet appartement ne vous plaît pas. Je peux vous proposer une colocation, ça vous irait ?
Ça c'est bien, oui, ça nous fera du bien de voir du monde en plus. Donc,
Ou alors c'est un grand coworking avec un groupe qui n'a pas plus les moyens de payer son loyer.
Ah bah oui, carrément, ça c'est génial, oui.
En revanche, il faut montrer patte blanche avant d'arriver.
Oui, bah on a un bon dossier, hein, ça devrait le faire, c'est où ?
Alors c'est à Nanterre. Avec le Rassemblement National.
Ah non, Olivier, on n'est quand même pas tombé aussi bas. Hein.
Bon, ben les amis, écoutez, vous pouvez pas tout refuser. Hein, il faut faire des concessions. Bon, le prochain bureau, vous l'acceptez ou on arrête l'émission.
Bon, alors, je vous ai dégoté un siège tout neuf, jamais utilisé.
Ah, ben très bien, ça se trouve où ?
Ben, c'est à Évry, c'est le bureau d'Emmanuel Valls. De Manuel Valls, pardon.
Merci, Dany. Je rappelle que vous êtes en tournée, donc avec Emmanuel Seignier, qui lit des extraits de votre livre, les textes de Dany, La nuit ne dure pas, le livre paru chez Flammarion, lecture musicale avec vous.
Mais elle chante aussi.
Elle chante aussi, bah, les
avec
deux.
Avec moi, oui, bien sûr. Bien.
Ah oui, vous faites des duos.
Elle fait Boomerang avec moi, elle a une voix très jolie, on a deux voix qui se mélangent bien, on chante deux chansons à elle aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire trop lecture musicale, parce que c'est un peu...
Concert.
Ouais,
concert. Demain, Dijon, Lyon,
concert, lui, voilà.
Il y aura
ça, c'est
Grasse,
bien.
Paris, bientôt, Marc-en-Barreul. Merci beaucoup, Dany. Et tiens, Guillaume Meurice, lui, sera à Biarritz, à la Gare du Midi, vendredi 12 octobre, comme ça, vous savez tout, Tour de France. Merci beaucoup, Dany.
De rien, avec plaisir.